C'était sympa, ces petites musiques de Noël sur l'antenne de Graphite. C'est vrai que ça nous met dans une certaine ambiance, l'ambiance des fêtes de fin d'année, de la joie et aussi du retour des rhumes et des bronches. Hein, parce que alors moi, j'ai une voix, je ne suis pas certain de pouvoir assurer l'émission pendant toute l'heure et c'est bien dommage. J'essaie de faire mon mieux. Ça va être du direct avec moi, Jean-Noël, sur l'antenne de Graphite, dans le studio avec un chat dans la gorge, mais j'espère que ça va aller. Alors ça va pas être la dernière émission d'aujourd'hui parce que du coup j'en profiterai pour enregistrer l'émission de la semaine prochaine parce qu'il y a tellement de choses à évoquer aujourd'hui dans l'émission Beauty sur l'antenne de Graphite. J'ai peur de ne pas pouvoir assumer l'intégralité des articles que j'ai prévu de pouvoir évoquer avec vous aujourd'hui. Donc si on n'a pas le temps aujourd'hui, je me permettrai de pouvoir enregistrer l'émission qu'on pourra écouter donc la semaine prochaine sur l'antenne de Graphite. Je suis un peu speed parce que j'ai mis beaucoup de retard et je suis arrivé il n'y a pas longtemps dans le studio avec Enrique qui nous a animé donc sa dernière émission de l'année pour VibraSOS. Bienvenue sur l'antenne de Graphite, vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet, en direct, en différé grâce au podcast mais également aussi grâce à la rediffusion le mardi matin à 10h. Effectivement, c'est une émission assez ancienne qui a démarré en 2008 sur l'antenne de Graphite, mais toutes les semaines, on a quand même une richesse de l'actualité scientifique qui fait que, quelque part, on ne s'ennuie pas, on n'arrête pas. Aujourd'hui, on va parler de la dermatose nodulaire contagieuse. Ça, c'est vraiment l'actualité du moment. On fera un point sur la COP30. On parlera de Tchernobyl. Il y a encore une actualité sur Tchernobyl. Je trouvais ça assez intéressant. On va parler des vaccins à ARN messager. Et puis, si on a le temps, et pour bien vous dégoûter si vous êtes à table, on parlera des glaçons que l'on vous sert dans les bars. Il y a une expérience scientifique qui a été menée. Les résultats sont assez, on va dire, assez particulier. C'est ça, Biotine, sur l'antenne de Graphite. Bonjour à tous.
Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Et nous sommes donc aujourd'hui le 13 décembre. Déjà le 13 décembre, cette année est passée quand même très rapidement, je trouve. Je ne sais pas, c'est assez inquiétant, non, je ne sais pas, ce temps qui passe très très vite. Donc le 13 décembre aujourd'hui au niveau de l'éphéméride, en 1642, c'est la découverte de la Nouvelle-Zélande par le navigateur hollandais Abel Tasman en 1642. Plus proche de nous, 1903, le 13 décembre, c'est un New-Yorkais d'origine italienne qui s'appelle Italo Marchioni. Il obtient un brevet. Alors, un brevet pour quoi ? À quoi on peut penser le 13 décembre à New York en 1903 ? Réfléchissez au mois de décembre. Eh bien, évidemment, on pense aux cornets de glace. Eh bien oui, je ne sais pas, je trouve ça assez étonnant de déposer un brevet et donc d'obtenir ce brevet pour le cornet à glace par donc Italo Marchioni en 1903. Voilà, il a déposé ce brevet pour ce cornet à glace et finalement, c'était une belle réussite. 1963, c'est l'adoption d'une charte du droit de l'espace. Alors, bien qu'il n'existe aucune limite entre l'espace aérien et l'espace cosmique, parce que la limite atmosphérique, elle n'est pas reconnue en droit, eh bien, les règles du droit de l'espace prévoient un régime spécifique pour les activités d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, c'est-à-dire après l'atmosphère. Et au sens large, le droit de l'espace comprend l'ensemble des règles relatives aux activités spatiales, y compris les règles de droit privé. C'était en 1963. C'était quand même à la grande, grande époque de la conquête spatiale dans les années 60. Et en 1972, toujours dans l'espace, les astronautes d'Apollo 17 dévoile une plaque à la gloire de la paix fixée sur le train d'atterrissage du module lunaire qui sera laissé sur la Lune. On a donc laissé une plaque à la gloire de la paix sur la Lune. C'était le 13 décembre 1972. Qui est né un 13 décembre 1816 ? Eh bien, par exemple, Ernest Werner von Siemens. Ah, Siemens, oui, ça nous dit un petit peu quelque chose. Il est né à Berlin. C'est un inventeur et un industriel allemand. Un petit peu le mania du génie électrique. Et avec Alfred Krupp et Friedrich Bayer, il est l'un des piliers de l'époque des fondateurs Hanover, en Allemagne. En 1866, Werner Siemens établit le principe de la dynamo électrique et l'un de ses professeurs à l'école d'artillerie n'est autre que le physicien Gustav Magnus. Siemens, il expédie un exemplaire de cette dynamo à Magnus et lui, il voit tout l'intérêt de cette invention et il s'efforce de publier cette découverte d'abord à Berlin puis à Londres en 1866. Un peu plus tard, en 1877, Siemens obtient le brevet du haut-parleur électrodynamique. En 1877 quand même. Et deux ans après, 1879, lors de l'expo industrielle de Berlin, eh bien Siemens met en service un petit train pour les visiteurs qui est tracté par la première locomotive électrique digne de ce nom, dit-on à l'époque. Le moteur est alimenté en énergie par une installation fixe. Et Siemens est passé à la postérité dans le sens où on a adopté le nom Siemens comme unité du système international pour la conductance électrique. Donc ça devient une unité de mesure, le Siemens. Et effectivement, c'est un nom qui est encore très connu actuellement. Il est né le 13 décembre 1876. Décès le 13 décembre 1975, donc on est au XXe siècle, plus proche de nous, de Marie-Locke Peterman. Marie-Locke Peterman. Marie, tiens, le nom d'une femme. Ah bon, c'est vrai que c'est assez rare. Et justement, profitons de cet anniversaire de sa disparition pour évoquer cette biochimiste cellulaire américaine connue pour son rôle clé dans la découverte et la caractérisation des ribosomes animaux. Ce sont des complexes moléculaires qui vont pouvoir synthétiser les protéines. C'est une véritable découverte très intéressante. Elle est la première femme à devenir professeur titulaire à la faculté de médecine de l'université Cornell. Donc cette biologiste cellulaire américaine est décédée le 13 décembre 1975, Marie-Locke Peterman. Voilà, c'est un nom que... Alors, c'est un nom qui revient un petit peu plus sur le devant de la scène, entre guillemets, dans le sens où il y a de plus en plus une réhabilitation, et c'est totalement évident, de ces femmes scientifiques qui ont apporté vraiment de véritables avancées dans la recherche scientifique dans différents domaines. Et Marie-Locke Peterman est un nom qu'on commence à revoir de plus en plus, justement pour pouvoir mettre en avant les implications de la gente féminine, bien évidemment. Alors, on va évoquer un petit peu d'ambiotine, pas mal d'actualités scientifiques. Je voulais revenir sur ce qui est en train d'être une véritable actualité en ce moment, c'est la colère des agriculteurs. Et on parle beaucoup de cette dermatose nodulaire contagieuse. Alors, on a beaucoup d'informations sur les affrontements qu'il y a entre la gendarmerie et les agriculteurs. C'était dans l'Ariège, je crois que c'était jeudi par exemple. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et je trouvais que cet article de Science et Vie était assez intéressant parce que ça permettait un petit peu de revenir sur la définition de cette dermatose nodulaire, contagieuse. Et donc, c'était la prise du contrôle d'une exploitation à Bordes, au Bordes sur Arris et dans l'Ariège, hein, par les gendarmes mobiles. C'était donc jeudi, je crois. Et ensuite, il y a eu l'abattage hier matin d'un troupeau de 207 bovins en raison justement d'un cas de cette dermatose nodulaire contagieuse, la DNC. Il y a plusieurs centaines d'agriculteurs qui tentaient depuis deux jours de bloquer l'accès aux services vétérinaires en vain. En fait, la DNC rime pour les éleveurs avec abattage systématique de tout le troupeau et le gouvernement se montre intransigeant sur la question. Une méthode que dénoncent les éleveurs qui n'y voient pas une solution pérenne. On sait très bien que l'abattage total, ce n'est pas du tout une solution, que la maladie se propage quand même et qu'en fait, par contre, ce sont des vies broyées, sacrifiées et cela, ce n'est pas tenable. C'est ce qu'avait déclaré la porte-parole de la Confédération paysanne, Fanny Métra, à l'AFP il y a quelques jours. Une stratégie de lutte qui attise donc les tensions alors que cette maladie virale progresse rapidement en France. Alors, comment se transmet, c'est un petit peu la question, cette maladie? Eh bien, cette dermatose est transmise uniquement aux bovins. Bovins au sens large, il y a même les buffles et les zébus qui sont compris. Et c'est transmis par un virus de la famille des poxvirus qui est porté par des insectes piqueurs, notamment les thons qui sont porteurs, en tout cas vecteurs de cette maladie. Le pathogène peut se retrouver ensuite dans la salive, la semence, les croûtes des liaisons de l'animal touché. Il peut aussi se transmettre dans une mesure un peu moindre par contact direct entre les animaux. Par ailleurs, ceux qui sont malades malades ou ceux qui sont en incubation peuvent aussi contaminer les véhicules et le matériel. Et donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, se veut plutôt rassurante. La DNC n'est pas transmissible à l'humain, nous dit-on, ni par contact avec les animaux malades, ni par la consommation de produits issus de ces animaux. Elle ne présente donc aucun danger pour la santé publique, c'est ce qu'explique donc l'ANSES sur son site internet. Les piqûres des insectes vecteurs ne permettent pas non plus une transmission à l'homme, nous dit-on. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie ? Cette maladie, elle tient son nom de l'apparition de nodules, ce qu'on parle de dermatose nodulaire, donc on a l'apparition de nodules sur la peau et les muqueuses des bovins qui sont infectés. Ils peuvent aussi souffrir de fièvre, de fatigue, d'anorexie, de lésions dans la bouche. La maladie peut également entraîner une perte de poids, des avortements, mais aussi une baisse de la production laitière. Et à l'inverse, les animaux infectés peuvent aussi présenter des symptômes très discrets. Concernant la mortalité, l'ANSES a donné à Science et Avenir, c'est un article de Science et Avenir, pardon, je vous ai dit Science et Vie tout à l'heure, c'est Science et Avenir. L'ANSES donne à Science et Avenir un chiffre de 10% en moyenne de mortalité, ce qui est quand même pas négligeable. Par ailleurs, la maladie a un impact moindre sur les races rustiques, même concernant la morbidité, c'est ce que précise l'agence. Alors, quand est-ce qu'elle est apparue, cette maladie, en France ? Eh bien, cette maladie, elle est historiquement une maladie d'Afrique subsaharienne et d'Asie, mais elle est favorisée par des conditions chaudes et humides. Entre 2015 et 2016, il y a des foyers qui ont été détectés pour la première fois en Europe du Sud-Est, notamment en Grèce, en Bulgarie et dans les Balkans. Elle a ensuite été éradiquée de cette zone. Des cas ont bien plus tard été signalés en Italie. Et finalement, c'est le 29 juin de cette année que la France détectait à son tour son premier cas de contamination en Savoie. La maladie peut se transmettre sur de longues distances alors que les animaux sont déplacés par transport routier. Et donc en France, en date du 9 décembre, donc c'était lundi dernier, 109 foyers ont été détectés dans 8 départements, ce qui concerne 74 élevages. Ce sont donc parmi les derniers chiffres qui ont été présentés par le ministère de l'Agriculture. Et environ 3000 animaux ont été euthanasiés depuis la découverte du premier foyer. Quand même, 3000 animaux ont été euthanasiés. Et enfin, dernière question, comment on peut lutter contre cette dermatose nodulaire contagieuse ? Eh bien, la réglementation européenne impose aux pays touchés un abattage total des troupeaux infectés afin de stopper la diffusion du virus. La stratégie étant l'éradication, il faut donc tarir les sources de virus potentiels, c'est-à-dire les animaux symptomatiques. Mais le problème est que les animaux sans symptômes peuvent également transmettre la maladie. En fait, l'incubation, elle est plus ou moins longue, de 4 jours à 5 semaines. Donc effectivement, c'est une période qui est quand même assez longue. L'animal ne se porte pas mal, mais il est quand même infecté. Et on parle aussi de notion de virémie. Alors, virémie, c'est la présence du virus dans le sang. Elle est transitoire de 2 à 3 semaines. Donc là aussi, c'est quand même une durée assez large. Et il est donc très difficile de dire si les animaux sont porteurs du virus, depuis quand ? Et ce sont des questions qui sont très difficiles de répondre. C'est ce qu'explique l'ANSES. Alors, s'il n'existe pas de médicaments pour contrer le virus, des vaccins sont disponibles. Celui utilisé en France permet, par exemple, une protection de l'animal 21 jours après l'injection. C'est comme pour nous, êtres humains, par rapport au vaccin de la grippe. C'est pas au moment où on est vacciné, d'une minute après, ça y est, on est tranquille. Non, non. Il y a une période, bien sûr, d'incubation qui doit être, alors, un peu plus courte pour le vaccin de la grippe. Mais là, dans le cas du vaccin contre cette dermatose, c'est 21 jours. Donc, c'est quand même aussi une période assez longue. Mais la généralisation de la vaccination pour protéger de façon préventive le cheptel français divise les éleveurs. Certains sont pour un plan de vaccination large, tandis qu'il y a d'autres qui craignent qu'une vaccination générale remette en cause le statut indemne de la France, lui permettant d'exporter facilement, bien évidemment. Le débat se poursuit donc concernant cette solution qui reste largement facultative. La vaccination ne peut être imposée qu'en cas de présence confirmée de foyers dans une zone ou de l'existence d'un risque important d'introduction du virus dans cette zone. Il y a d'autres moyens qui sont utiles au contrôle de la maladie, notamment la désinsectisation, hein, parce que les larves des insectes se développent notamment dans la paille humide. Et aussi la désintoxication des véhicules, des bâtiments, la désinfection du matériel, la limitation des mouvements des animaux. Donc tout ça, ça peut être aussi préventif. En outre, il y a une zone réglementée d'un rayon de 50 km qui est instauré autour de chaque foyer détecté. Alors 50 km, c'est quand même aussi des périmètres assez larges. Et puis, une énième précaution pour limiter la diffusion d'un virus qui équivaut à une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête des éleveurs bovins. Parce que quand on va cumuler un petit peu tous ces... toutes ces actions, effectivement, ça pénalise énormément le travail des éleveurs. Alors, j'ai vu tout à l'heure, il y a une heure à peu près, une dépêche de France Info qui informait que, je crois que c'est le ministère de l'Agriculture qui annonçait qu'il y aurait 1 million de vaccins apparemment qui seraient... distribués pour essayer d'éradiquer cette dermatose nodulaire contagieuse. Mais voilà, c'est une situation qui est assez critique, critique d'un point de vue de santé animale et donc même si on nous confirme qu'il n'y a pas de risque pour l'homme, mais bien sûr derrière il y a quand même une véritable problématique d'ordre économique pour l'agriculture française et c'est pour ça que ça fait pas mal réagir au niveau des médias, on en parle beaucoup, mais je trouvais que cet article de Science et Avenir assez intéressant parce que voilà, ça nous permettait un petit peu de poser les choses et de savoir de quoi on parle. Voilà, je parle beaucoup. Hein. Ça va encore, j'arrive à tenir. J'arrive encore à tenir cette heure. Allez, on va écouter un petit peu de musique et puis on va partir au Brésil et faire le point sur la COP30. Alors là, non plus, c'est pas totalement réjouissant. On va faire un petit peu le bilan de cette COP30 qui s'est tenue à Belém au Brésil. Pendant ce temps-là, on va écouter un petit peu de musique, bien sûr, parce qu'on écoute de la musique sur Graphite. Enfin, il paraît. Ah, on est un peu loin, c'est vrai, des chants de Noël de Vibrasoès. Hein. C'était Carnaut avec Under the Tent. Le chanteur, il avait un peu la voix que j'avais ce matin quand je me suis réveillé. Ça m'a fait un petit peu tout bizarre.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
En fait, on a une playlist hein, qui nous est proposée et on pioche un petit peu dedans. Donc, je découvre pas mal de choses avec vous. Je pense qu'on l'avait déjà écouté ce titre il y a quelques temps, mais il est ressorti comme ça. Ça change un peu, ça donne du peps. Du peps, je ne sais même pas si ça se dit encore. Biotine, l'émission. Voilà, ça y est, je commence à perdre ma voix. Courage, courage, il est 12h23 sur l'antenne de Graphite. Si vous nous écoutez en direct, bien évidemment, parce que si vous nous écoutez le mardi matin à 10h, c'est difficile de vous dire qu'il est 12h23. Ou alors si vous nous écoutez avec les podcasts que vous pouvez récupérer à toute heure de la nuit, ça se trouve vous êtes en train de nous écouter les 4h du matin et moi je vous dis qu'il est 12h23, vous n'arrivez pas à comprendre. C'est normal, nous sommes en direct aujourd'hui pour cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. Biotine, l'émission d'actualité scientifique, se devait bien sûr de faire le point sur la COP30, hein, le rideau qui est tombé sur la COP30, une COP perturbée par un incendie, quand même tout un symbole au cœur de l'Amazonie, et une COP marquée par la révolte des peuples autochtones, mais également la rencontre organisée par les Nations Unies pour décider de notre avenir climatique. Elle s'est soldée, cette rencontre, par la validation unanime d'un Mutirao mondial. Alors, plus de 150 pages de décisions ont été adoptées, parmi lesquelles celle de tripler les financements pour l'adaptation ou encore celle de renforcer les actions collectives de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais une fois de plus, l'accord ne fait pas mention des combustibles fossiles comme cible à abattre. Le texte final évoque aussi à peine l'importance de sauver les forêts tropicales. C'est peut-être pas important d'ailleurs, pourquoi se soucier de ça? En tout cas, la présidence de cette COP30 avait pourtant mis les négociateurs sur de bons rails en appelant à l'établissement d'une feuille de route pour inverser la déforestation et d'une autre pour surmonter notre dépendance aux énergies fossiles et le tout de manière juste et stratégique. Hein, c'est ce qui était évoqué. Il y a de nombreux pays qui avaient semblé vouloir suivre l'élan. Alors, que s'est-il finalement passé? Eh bien, cet article de Futura Science nous donne un petit peu quelques éléments et donc un résumé de cette COP30. Pardon, excusez-moi. Soulignons d'abord quand même quelques points positifs qui ressortent de cette COP, même si le plus souvent ces avancées sont issues de négociations conclues en marge de la rencontre de l'ONU. Il y a de nouveaux engagements des pays pour une transition juste, il y a un renforcement de la coopération internationale, de l'assistance technique et du partage des connaissances, il y a un plan visant à accélérer l'expansion et la résilience des réseaux électriques qui seront essentiels pour la décarbonation de nos économies. Il y a la reconnaissance de 4 nouveaux territoires autochtones au Brésil, un pas de plus vers la protection d'une superficie de forêts tropicales et de terres équivalentes à celle de la France, donc c'est quand même pas négligeable. Et encore, il y a aussi l'adhésion de la Corée du Sud à l'Alliance pour la sortie du charbon. Et en fait, la Corée du Sud, elle n'est autre aujourd'hui que le 4e importateur mondial de charbon thermique, derrière la Chine, l'Inde et le Japon. L'engagement prévoit la fermeture de 62 centrales à charbon en Corée du Sud. Une date est déjà confirmée pour 40 d'entre elles. Côté financement, les pays les plus exposés aux conséquences du réchauffement climatique, généralement aussi ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, eh bien, ils attendaient la concrétisation d'un nouvel effort de la part des principaux émetteurs historiques. Et donc le triplement d'ici 2030 du financement climatique de 40 milliards de dollars promis lors de la COP26. Donc là, ça se concrétise, en tout cas c'est ce que l'on dit. Le texte final appelle bien à des efforts pour au moins tripler ce financement. Il repousse toutefois la date butoir à 2035. Ah ben oui, parce qu'on va y aller, mais on va y aller à petits pas. Il n'y a aucun niveau de référence. Bref, on est plutôt dans les bonnes intentions. Officiellement lancé à l'occasion de la COP30, il y a également le Tropical Forest Forever Facility. C'est un fonds destiné à rémunérer les pays pour la préservation de leurs forêts tropicales. Alors, ça a rencontré un beau succès. Il y a près de 7 milliards de dollars de financement qui ont été promis par des pays sponsors, comme notamment la France. L'objectif est d'atteindre les 25 milliards pour ensuite attirer aussi des investisseurs privés et de faire monter le fonds à 100 milliards. Pour l'instant, on en est à 7. On va attendre un peu pour atteindre les 100 apparemment. La voie de la forêt, de manière plus générale, n'a toutefois pas tout à fait été entendu lors de cette COP qui se déroulait pourtant au cœur de l'Amazonie, peut-être en partie à cause des signaux contradictoires envoyés par l'organisateur brésilien. Déjà, quelques mois avant l'ouverture de la rencontre, le Brésil avait lancé l'idée d'une feuille de route pour lutter contre la déforestation, mais plus récemment, le Brésil avait accordé une autorisation d'explorer à la recherche de pétrole une parcelle océanique de l'embouchure de l'Amazonie. Donc on était quand même dans une certaine contradiction. Résultat, la forêt amazonienne n'est mentionnée que de manière vague dans le résultat, en tout cas dans l'accord final. Et l'idée d'une feuille de route n'apparaît même pas. Donc c'est un petit peu dommage. On est sûrement passé à côté de quelque chose en ce qui concerne la forêt amazonienne. Cette COP 30 a aussi, et peut-être surtout, tout échoué à aboutir à un accord sur la sortie des énergies fossiles qui avait pour la première fois été mentionné en conclusion de la COP 28. Et donc au fil des jours, il y a un nombre grandissant de pays qui avaient pourtant suivi la voie tractée par le Brésil et qui avaient un petit peu rallié l'idée d'établir une feuille de route de la transition énergétique. Et après avoir traîné à s'engager, l'Europe a même un temps menacé de quitter la table des négociations si une formulation ambitieuse n'était pas proposée à ce sujet. Alors finalement, l'accord final de la COP 30 ne fait nullement mention du problème des énergies fossiles. Voilà, comme ça, on cache le problème. Si on cache le problème, c'est qu'il n'y a plus de problème, c'est sûrement ça. Et donc, pour expliquer ces résultats plus qu'en demi-teinte, les experts évoquent plusieurs raisons. D'abord, l'absence à la table des négociations, l'absence des États-Unis, un pays qui pèse comme le plus grand des émetteurs historiques de gaz à effet de serre, un pays dont le président Donald Trump s'évertue aujourd'hui à nier les résultats de la science du climat. Pourtant, sans cette sorte de superpuissance climatique, il est difficile pour la COP 30 de trouver son leader. L'Europe n'a, elle non plus, pas parlé d'une seule voix. Elle a attendu le milieu de la COP 30 pour se prononcer en faveur d'une feuille de route pour la transition énergétique. Principale raison, selon les observateurs, c'est la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays. Les conflits qui secouent le monde actuellement n'aident pas non plus. Les responsables politiques européens le reconnaissent. Leurs inquiétudes et leur budget sont plus concentrés sur la menace à court terme que représente la Russie que sur le réchauffement climatique. Et si cela ne soulève que peu d'indignation auprès d'un public qui se dit pourtant acquis à la cause environnementale, c'est sans doute que les médias, eux aussi, consacrent plus leurs ressources à la situation géopolitique qu'aux conséquences de la crise climatique. Pardon. Mais la raison principale des échecs des négociations pourtant essentielles à nous garantir un avenir climatique, c'est la présence, une fois encore en masse, à Belém. Belém, c'est là où avait lieu cette COP 30. Ils étaient en masse, ils étaient environ 1600, soit plus que n'importe quelle délégation nationale. Ils étaient 1600 les lobbies des industries du pétrole, du gaz et du charbon. Eux, ils y sont allés, hein, effectivement. Les entreprises les mandatent pour protéger leurs revenus. Et ça fonctionne, d'autant qu'ils sont soutenus par les pays producteurs d'énergie fossile. L'Arabie Saoudite, la Russie en tête selon les experts. Ils n'hésitent pas à jouer de leur droit de veto, parce qu'à la COP, il y a chaque pays qui en dispose. Et ils jouent de leur droit de veto pour contrer toute velléité de sortir des énergies fossiles, prétendant que le problème réside dans les émissions et non dans le combustible lui-même. Alors, au dernier jour de la COP 30, la Colombie et les Pays-Bas ont annoncé qu'ils co-organiseraient la première conférence internationale sur la transition hors des énergies fossiles. Ce sera en avril prochain en Colombie, donc à Santa Marta, une conférence qui pourrait accoucher d'une feuille de route qui serait alors présentée lors de la COP 31, qui aura lieu dans un an en Turquie, tout en étant présidé par l'Australie. Alors ça, faut qu'on m'explique un petit peu ces organisations. C'est présidé par l'Australie, ça a lieu en Turquie, ça sera donc dans un an, on suivra ça. Mais entre-temps, donc, il y a cette conférence internationale sur la transition hors des énergies fossiles en avril en Colombie. Donc on suivra un petit peu tout ça. On n'a pas trop parlé de la COP 30 dans les médias, parce qu'en fait, ça n'aboutit pas grand-chose. Enfin, à un moment, il faut... Excusez-moi. Ah, je suis vraiment désolé. Je vais essayer de tenir. Comme il n'y a pas eu de véritable avancée dans les accords de la COP 30, il est certain que les médias n'ont pas beaucoup parlé. Chacun défend son petit carré, mais on n'a pas une vision internationale, une vision globale. et une volonté globale de pouvoir avancer dans la même direction. Donc effectivement, on est dans des petits accords, des petits arrangements qui finalement ne donnent pas une vision optimiste et à long terme de ce que l'on devrait plutôt faire. Donc ça se termine sans l'engagement que beaucoup jugeaient indispensable concernant donc cette urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons. Et cet article de Futura Science permettait justement de pouvoir un petit peu faire le point sur cette COP 30. Voilà. Voilà, je suis désolé. 12h32 sur l'antenne de Graphite. On va partir à Tchernobyl. Parce que, alors on avait parlé des chiens bleus il y a peut-être un mois, hein, je crois, déjà dans cette émission. Il y a des choses qui se passent à Tchernobyl. Et donc là, il y a encore un article qui parle de Tchernobyl. En 1997, la microbiologiste Nelly Zdanova, elle explore les ruines du réacteur numéro 4 de Tchernobyl, qui est l'un des lieux les plus radioactifs au monde. Et elle y découvre des moisissures noires installées sur les murs, les plafonds et jusque dans les conduits métalliques. Et leur présence n'est pas un simple effet secondaire à la disparition des humains. Dans les sols contaminés autour de la centrale, eh bien, cette microbiologiste avait déjà observé des champignons qui poussaient en direction des particules radioactives. Et ce comportement assez étonnant, qu'elle nomme radiotropisme, rappelle celui des plantes qui se tournent vers le soleil. Mais ici, les champignons se développent vers une source d'énergie qui est théoriquement mortels, ce sont les rayonnements ionisants qui sont capables de déchirer l'ADN et de déchirer les protéines. Pourtant, ces moisissures qui sont riches en mélanine, le pigment noir aussi présent dans la peau humaine, eh bien, elles prospèrent au cœur même du réacteur numéro 4, le réacteur éventré de Tchernobyl. Le rôle de la mélanine, elle commence alors à intriguer. Tout comme une peau foncée va protéger des UV, eh bien, ce pigment pourrait agir comme une espèce de bouclier biologique face aux particules radioactives. Et donc, dans les étangs voisins de cette zone, les grenouilles les plus sombres, elles survivent également mieux, ce qui est un peu un signe que cette mélanine représente un avantage sélectif dans cet environnement plutôt hostile. Alors les travaux de Nelly Zdanova, elles ouvrent une piste vertigineuse parce que ces champignons ne se contentent pas de survivre aux radiations. En fait, ils les rechercheraient. Et 10 ans après, en 2007, Ekaterina Dadashova, qui est une physicienne nucléaire à New York, confirme que certaines espèces qui ont de la mélanine, qui sont exposées à un élément radioactif, elles vont augmenter, elles vont croître, elles vont grossir 10% plus vite que les mêmes champignons qui ne sont pas en présence de radiation. Et l'hypothèse, elle prend un peu forme, c'est-à-dire que la mélanine, elle agirait comme un transducteur énergétique, c'est-à-dire qu'elle va convertir les radiations en énergie métabolique. C'est une découverte assez intéressante et Ekaterina Dadashova bâtit ce phénomène théorique de radiosynthèse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir synthétiser de l'énergie à partir des émissions radioactives. Pour l'instant, le mécanisme précis reste inconnu. Les scientifiques doivent encore identifier les protéines ou les sites moléculaires de la mélanine qui sont impliqués dans cette conversion. De plus, seuls quelques champignons qui contiennent la mélanine parmi des dizaines d'espèces collectées à Tchernobyl présentent ce comportement un peu particulier de radiotropisme et certaines études n'ont observé aucune croissance stimulée par les radiations. Mais 10 ans après, 2018, une expérience menée à bord de la Station Spatiale Internationale relance le débat. Le champignon, qui s'appelle Cladosporium sphaespermum, qui est déjà observé à Tchernobyl, il va croître plus vite que sur Terre. Une croissance est-elle due à un rayonnement, cette fois cosmique, peut-être, ou peut-être simplement en raison de la pesanteur? Eh bien, les chercheurs travaillent encore à départager ces hypothèses. Plus surprenant encore, même une fine couche de ce champignon semble absorber une partie du rayonnement spatial, ce qui suggère en fait un potentiel radioprotecteur assez remarquable, qu'il provienne de la mélanine ou simplement de l'eau qui est contenue dans cet environnement, qui est également aussi très efficace, l'eau, pour bloquer les protons cosmiques. Alors pour les astronautes du futur, le rayonnement cosmique galactique constitue l'un des plus grands dangers parce que ni le métal, ni le verre, ni les matériaux plutôt classiques permettent d'assurer une protection suffisante sans imposer des masses colossales à transporter. Donc si on veut faire une combinaison, c'est assez compliqué. C'est ce que résume l'astrobiologiste Lynn Rothschild qui travaille à la NASA. construire des habitats spatiaux avec des matériaux terrestres reviendrait à transporter une carapace de tortue dans l'espace, d'où une idée plutôt audacieuse, ce serait d'utiliser des matériaux biologiques cultivés directement sur place. Et donc la NASA, elle étudie déjà des espèces de prototypes avec ces champignons, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des murs, des meubles faits à partir de ces champignons qui pourraient pouvoir essayer d'absorber les radiations. Et si la radiosynthèse et les capacités de protection des champignons de Tchernobyl se confirment, eh bien ces organismes pourraient devenir des boucliers vivants contre les rayons cosmiques dans l'espace. Et c'est ça qui est assez intéressant. Une perspective qui est particulièrement attractive, alors que la Chine et les États-Unis prévoient la construction de bases lunaires, on en parle très souvent dans cette émission, bien évidemment, et SpaceX vise aussi des missions habitées vers Mars dans la prochaine décennie. Donc, pour pouvoir se protéger contre les rayons cosmiques, peut-être qu'on va pouvoir utiliser ces champignons qui sont capables justement de se protéger et même capables de grossir, de vivre et de croître dans un environnement plutôt hostile. Et comme ils ont conquis les ruines irradiées d'un monde abandonné à Tchernobyl, eh bien ces mystérieux champignons noirs pourrait finir un jour par accompagner les premiers humains à s'installer sur d'autres mondes. Donc c'est un article vraiment intéressant dans Futura Science parce que on est sur quelque chose qui intrigue au départ dans une zone qui a été totalement, où il n'y a plus personne, bien sûr, à Tchernobyl. On fait encore quelques expériences, bien sûr. On essaye de voir un petit peu comment se comporte la faune, la flore, en l'absence de l'être humain, dans un environnement quand même assez hostile et compliqué. Et donc, voilà, on découvre ce champignon noir et qui pourrait peut-être, bien sûr, avoir une incidence très, très importante sur la conquête spatiale. Ça sera à suivre, bien évidemment. Allez, on écoute un peu de musique, bien sûr. Alors, j'ai trouvé ce titre dans la playlist qui s'appelle Neige au soleil. Je trouvais que c'était de circonstance parce qu'on est quand même en période de Noël, bien sûr. Vous êtes bien sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Je cours et toi, tu cours devant. Je souffle, je cours et toi, tu cours devant. J'entends, tu ris, tu cours et tu ris. Comment peux-tu courir et rire autant? Tes pas se plaquent, tapent, battent comme le cœur d'un oiseau perdu sur le tarmac. Au bas de l'eau, arrête la route. Pas aller plus loin qu'une route. Ton avance fond comme neige au soleil, comme neige au soleil. Neige au soleil. Devant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas. Vif ton puma, tu veux que je lance mes ordres de mon armée sur toi. Au bas de l'eau, arrête la route. Tu ne peux pas aller plus loin qu'une route. Ton avance fond comme neige au soleil, comme neige au soleil. Neige au soleil. Je jure qu'avant le soir, je t'aurai touché la main. Avant le soir, je t'aurai touché la main. Avant le soir, je t'aurai touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Je jure qu'avant le soir, je t'aurai touché la main. Avant le soir, je t'aurai touché la main. Avant le soir, je t'aurai touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas.
Neige au soleil, c'était Bertrand Belin sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Et vous nous écoutez bien sûr sur Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la Bourde FM, dans l'Aisne, l'Oise, la Somme et Graphite.net un petit peu partout, peut-être même dans l'espace, allez savoir. Alors j'étais en train de regarder l'actualité, donc je vous confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Face à la colère des agriculteurs et l'abattage des animaux, Annie Genevard réagit, la ministre de l'Agriculture a donc annoncé ce matin chez Ici Occitanie, elle a annoncé la vaccination prochaine d'un million d'animaux contre la dermatose nodulaire et l'extension de la zone obligatoire à 5 départements du sud-ouest, dont les Landes et le Gers. Une ceinture sanitaire élargie pour protéger les éleveurs, dit-elle. Et toute la question, c'est de savoir si cette annonce suffira à calmer la colère paysanne. Il y a de nouveaux blocages qui sont organisés aujourd'hui. Voilà, c'est donc l'actualité, la pure actualité en direct, mais je voulais avoir la confirmation donc de cette campagne de vaccination assez intensive. Allez, il est 12h44 sur l'antenne de Graphite. Il y a plusieurs articles que je voulais évoquer. Alors, j'aurais jamais le temps de tout faire aujourd'hui, donc il est bien qu'on se retrouve samedi prochain. Je voulais revenir sur cette étude française qui est la première au monde à avoir suivi durant 4 ans, près de 29 millions de personnes âgées entre 18 et 59 ans, vaccinées ou non contre le Covid-19. Et je trouvais que cette étude vraiment intéressante parce que on est vraiment sur un panel très très large, une durée de temps, 4 ans, et puis un nombre assez important de personnes qui sont suivies, 29 millions. Ce travail visait notamment à apporter de nouvelles données robustes sur le profil de sécurité sur le long terme des vaccins à ARN messager. Et donc, il y a un groupement d'intérêts scientifiques communs qui a travaillé, qui s'appelle EPIPHAR, alors qui a travaillé notamment avec l'Agence nationale de la santé des médicaments, je vous dis de mémoire, la NSM, et la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Ils ont mené justement cette étude de pharmaco-épidémiologie. L'idée, c'était d'évaluer le risque de mortalité toute cause à 4 ans chez donc ces individus âgés de 18 à 59 ans, vaccinés au moins une fois avec un vaccin à ARN messager. C'était Pfizer, c'était Moderna. Et de pouvoir faire une comparaison par rapport à des individus qui ne sont pas vaccinés. Alors, selon les résultats de cette étude qui a été publiée il y a une semaine dans la revue JAMA Network Open, les personnes ayant reçu un vaccin à ARN messager n'ont pas plus de risque de décès, toutes causes confondues, que les personnes non vaccinées. Mieux, les individus ayant reçu au moins une dose de vaccin ARN messager présentaient un risque de décès, toutes causes, réduit de 25% comparativement à ceux non vaccinés. Cette réduction était observée pour les principales causes de décès étudiées, dont les maladies cardiovasculaires et les cancers. Et la mortalité liée au Covid-19 était quant à elle réduite de 74% chez les personnes vaccinées. L'étude qui a été réalisée à partir des données du Système national de données de santé inclut donc plus de 22 millions de personnes vaccinées entre mai et octobre 2021, donc il y a 4 ans. Et on rajoute aussi presque 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées à peu près pendant cette même période. Et on les a suivies sur une durée de 45 mois. Donc on est sur 3 ans et demi à peu près. Au total, sur les 4 années de suivi en global pour tout, on est à peu près à 98 000 décès, toutes causes, qui ont été enregistrés chez les personnes vaccinées, contre 32 000 chez les non vaccinés. Alors, je vais me dire, attendez, le nombre est important. Alors, attention, faut voir ça en termes de pourcentage, c'est-à-dire 0,4 chez les personnes vaccinées, 0,6 chez les personnes non vaccinées, en termes de personnes décédées. Donc cette étude, elle confirme l'innocuité des vaccins ARN messagers qui ont joué un rôle majeur dans le contrôle dans la pandémie du Covid-19. Il y a de nombreuses études qui ont déjà confirmé leur efficacité, notamment contre les formes graves, les hospitalisations et les décès liés au virus de ce Covid. Ces travaux ont aussi montré en outre des effets de réactogénicité qui ne sont pas graves et qui peuvent se résoudre assez rapidement. C'est-à-dire que certains font parfois quelques réactions quand on leur injecte ce vaccin, mais qui, voilà, on prend un doliprane et ça va. Donc si on enlève tous ces cas, et aussi il y a de rares cas de myocardite et d'anaphylaxie, il n'y a aucune association entre les vaccins ARN messagers et le risque d'infarctus du myocarde, d'embolie pulmonaire ou d'accident vasculaire cérébral qui n'a été mis en évidence. La présente étude est particulièrement intéressante du fait de la durée du suivi des patients, parce que comme je l'ai dit, on les a suivis jusqu'à peu près 4 ans environ. Les résultats excluent toute augmentation du risque de mortalité à long terme associée à la vaccination par ARN messager contre la Covid-19 et renforcent les connaissances sur leur profil de sécurité. C'est ce que conclut donc ce groupe d'intérêt scientifique dans un communiqué. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on a évoqué dans cette émission en 2020 la Covid-19, je vous avais dit à l'époque que la science apporte les réponses, mais qu'il faut prendre le temps. Donc là, on a pris une durée de 4 ans et on a un recul de 4 ans. Je vous ai dit que, je vous disais à l'époque que les vaccins ARN messagers n'étaient pas des vaccins qu'on a créés comme cela d'un claquement de doigts au moment de l'apparition de la Covid-19. On savait, on avait déjà une antériorité de ces vaccins et on savait comment les produire. Donc on avait déjà quelques études qui avaient été menées, et qui avaient bien déjà précisé le fait que il n'y avait pas de danger. Le problème, c'est que on est aussi face à certains groupements de personnes qui vont relayer des thèses farfelues, parfois complotistes, et qu'on entend encore, et c'est quand même assez dramatique. Cette émission Biotine, elle n'est pas là pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, elle est là pour vous donner les informations scientifiques sur des sujets précis, en expliquant voilà, les protocoles expérimentaux, les résultats, et après, quelque part, chacun fait son propre avis. Donc là, cette étude qui est quand même menée sur plus de 29 millions de personnes sur une durée de 4 ans, nous dit qu'il n'y a pas d'incidence directe sur une mortalité suite au vaccin ARN messager. Voilà ce qu'elle nous dit, voilà ce que moi je vous transmets comme information. À partir de là, je dirais, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais il y a un moment où il va falloir quand même peut-être arrêter de relayer des informations fausses et de toujours encore, ce que l'on voit parfois, des réactions totalement inadmissibles quand on accuse le vaccin de la mort d'un tel ou d'un tel sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est effrayant. Donc, voilà, on a un peu plus de recul et puis on fera encore, et les études elles se poursuivent bien évidemment, et donc dans 10 ans, dans 15 ans, on aura encore beaucoup plus de recul et encore beaucoup plus d'informations sur un volume beaucoup plus important de données qui nous diront la même chose, je suppose. J'anticipe peut-être un peu trop, mais en tout cas, oui, on est quand même bien sûr sur des choses qui sont confirmées, vérifiées par la science. Donc, écoutons quand même les scientifiques, je pense qu'ils sont quand même en mesure de pouvoir nous apporter des réponses justes et vérifiées, et comme ça, ça nous permet peut-être d'avoir, je ne sais pas, une vision un petit peu plus claire de ce qui est en train de se passer en termes de santé médicale, bien sûr. Mais voilà, je trouvais assez intéressante. Alors, j'ai l'impression que cet article qui date de la semaine dernière, j'ai pas trop l'impression, non, j'en ai un tout petit peu entendu parler personnellement, mais j'ai pas eu l'impression que ça a été vraiment bien relayé. Je trouve ça dommage, parce que ça permettait de couper court à certaines affirmations que l'on a parfois. Je trouve que c'est un peu inquiétant parfois de ne pas porter la voix de la science au sens large sur ce sujet-là. C'est ce que je vous avais dit il y a 4 ans. Et donc, je trouvais important de pouvoir l'évoquer ici dans cette émission. Voilà. Donc, vaccinez-vous. Qu'est-ce que je voulais que vous dise l'humanité. L'histoire de l'humanité a peut-être prouvé certaines choses également. Bref, alors, quelle heure est-il? 12h52, peut-être deux petits articles rapides. Allez, deux petits articles, un qui va être rigolo, qui va parler des robots, et le dernier qui va bien vous couper l'appétit. Alors, celui des robots, il y a un robot humanoïde qui vient d'entrer dans le livre Guinness des records. Pour la plus longue distance parcourue en marchant, le robot en question, il s'appelle Agibot A2, il a été dévoilé l'année dernière. Il est parti d'un lac situé dans la ville de Suzhou, en Chine, et il a parcouru un peu plus de 100 km, à 106 km, sans s'arrêter, pour finir dans le quartier nord de Shanghai. Donc il a marché 100 km sans aucune pause. Le robot est resté allumé tout au long de cet exploit, grâce à son système de batterie échangeable à chaud. Le voyage a nécessité un peu plus de 3 jours. Le robot, il est parti le 10 novembre, apparemment la nuit, pour arriver le 13 novembre au lever du jour. Et donc ce robot, Agibot, a publié une vidéo résumant le... Non, pas le robot qui a publié une vidéo, pardon. L'entreprise Agibot a publié une vidéo qui résume le parcours. Et pour pouvoir naviguer, ce robot a été équipé de 2 modules GPS et puis de pas mal de capteurs. En fait, c'est un robot humanoïde conçu pour le service, notamment le marketing et le service client, les présentations en hall d'exposition, le guidage en supermarché, l'accueil et les demandes de renseignements commerciaux. Et pour cela, il est équipé d'un système multilingue et de reconnaissance faciale. Il dispose d'une autonomie de 2 heures. Il pèse environ 69 kg et il mesure 1m70, quand même pas mal. Le constructeur a déjà vendu de plus de 1000 robots de ce modèle. Celui utilisé pour établir ce nouveau record était identique à tous ceux produits commercialement. La seule usure constatée à la fin de sa longue promenade était l'usure du revêtement en caoutchouc sous ses pieds. Petit bonhomme. Et cet exploit montre à quel point l'industrie robotique chinoise avance à grands pas. Donc ce robot Agibot A2 a réussi à parcourir divers terrains en emprunter différentes routes, le tout sans le moindre accident. C'est quand même un exploit technologique, bien évidemment. Alors vous pouvez voir des vidéos si vous le souhaitez sur le site de Agibot. Dernière question, je trouvais cet article, voilà, un petit peu article un petit peu particulier, on va dire, hein, parce que quand on commande un soda, quel qu'il soit, avec de la glace ou une boisson fraîche en terrasse, on imagine rarement le pire. Et pourtant, il y a plusieurs études qui montrent que les glaçons servis dans des bars, des restaurants ou des fast-food peuvent contenir, dans certains cas, plus de microbes que dans l'eau que l'on a dans les toilettes. Oui, oui, c'est certain. Il y a une enquête qui a été publiée donc cette année dans la revue Foods qui a analysé 108 échantillons de glaçons et d'eau du réseau provenant de bars et de restaurants de la région des Pouilles en Italie. Les chercheurs ont comparé la qualité microbiologique de l'eau potable utilisée pour fabriquer la glace et de la glace elle-même une fois qu'elle est fondue. Résultat, eh bien, on s'est rendu compte que la glace contenait près de 4 fois plus de bactéries que l'eau qui était utilisée pour la produire. Il y a plusieurs mécanismes qui expliquent un petit peu cette contamination, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous évitables lorsque les bonnes pratiques d'hygiène sont appliquées. Alors si les machines ne sont pas nettoyées et désinfectées régulièrement, il y a des bactéries, il y a des moisissures, il y a des biofilms qui peuvent s'accumuler sur les parois, les conduits ou les réservoirs. L'étude italienne publiée et identifiée ce poids comme l'une des causes majeures du dépassement des seuils microbiologiques. Les glaçons touchés à main nue ou avec des pelles qui sont mal nettoyées peuvent facilement être contaminés après le contact avec des surfaces qui ne sont pas stériles, hein, les comptoirs, les robinets, les poignées, et ainsi de suite. Il y a plusieurs enquêtes, dont une qui a été relayée par ABC News, qui souligne que le geste humain est souvent un maillon faible de la chaîne hygiénique. Et donc, dans cette étude, il y a le docteur David Katz qui précise « L'eau des toilettes est étonnamment exempte de bactéries car elle provient du réseau d'eau potable de la ville qui est désinfecté. » Ok, ça permet de dire que l'eau des toilettes serait plus propre que les glaçons qu'on a dans nos verres. Et donc, le fait qu'il y ait une humidité un peu stagnante, la condensation, les filtres encrassés, les cycles de fonte puis de recongélation, il y a autant d'éléments qui favorisent la profilibération des microbes à l'intérieur des machines. Donc le froid ne suffit pas à éliminer ces micro-organismes qui peuvent persister et se multiplier. En somme, Ajouter des glaçons n'a rien de problématique en soi. Ces résultats rappellent simplement que la qualité de la glace dépend surtout de la qualité de l'hygiène des installations. Un détail qui fait bien sûr toute la différence dans le verre. Mais voilà, on n'y pensait pas. On pensait que les glaçons étaient anodins. Eh bien non, voyez. Il faut faire attention, bien évidemment. Vous mettrez bien sûr des glaçons dans votre cocktail sans alcool, évidemment, parce que l'ARCOM nous écoute, je n'en doute pas. Mais consommez avec modération, comme à chaque fois, bien évidemment. Mais faites attention, voilà, avec vos glaçons que vous mettez dans vos cocktails, bien évidemment. C'était Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. C'est une émission bien dense, hein, je trouve. Il est déjà 12h57 sur l'antenne de Graphite. Je suis assez content parce que j'ai pu tenir ma voix. Je vous retrouve samedi prochain. On fera la dernière émission de cette année 2025. Alors, on n'aura même pas le temps de faire un best-of de toutes les émissions parce que je suis en train de voir que j'ai une quinzaine encore d'articles que je n'ai pas eu le temps d'évoquer. On parlera la semaine prochaine du cerveau des gamers qui se développe différemment. Ceux qui jouent aux jeux vidéo, ils ont un cerveau qui se développe différemment. Il y a le nouveau patron de la NASA qui parle d'un risque majeur sur la Lune. Il y a une étude assez intéressante où on a fait une expérience d'une semaine sans les réseaux sociaux et le résultat qui a été observé ne correspond pas vraiment à ce que l'on imaginerait. On va parler du football féminin en conditions réelles et donc justement des chocs qu'il peut y avoir. Et puis on va parler d'une étude qui dévoile un lien troublant entre les tatouages et un type de cancer. Je trouvais ça aussi assez inquiétant. Parce qu'on a une explosion du nombre de tatouages et donc il y a des études qui sont menées et voilà, et on pourrait peut-être faire des associations. Alors tout ça est conditionnel bien évidemment, mais c'est quelques pistes qui ont été évoquées. On verra ça la semaine prochaine sur l'antenne de Graphite. Je vous quitte enfin et je vous retrouve donc samedi prochain entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite et la rediffusion bien sûr mardi à 10h. D'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.